Alexandre Dumas, Black, chapitre 6. Le chevalier de la Graverie aux mousquetaires gris. Quelle que fût la sécheresse de son cœur, le baron parut touché de la délicatesse de son cadet. Et lorsque l'acte de donation rédigé par le notaire du baron eut été signé et paraphé au bas de toutes les pages, et à chaque renvoi par le chevalier, il lui tendit les bras avec une expansion dans laquelle il oublia presque sa dignité de chef de famille. Le chevalier s'y jeta en fondant en larmes, plus reconnaissant bien certainement de cette démonstration fraternelle que le baron ne l'était des 15 000 livres de rente qui venaient de lui rentrer, et qui, avec ce qu'il possédait déjà, lui faisait juste 15 000 francs de revenus. De son côté, le baron déclara, après l'accolade donnée et reçue, qu'à l'avenir, il voulait considérer et aimer Dieudonné comme son propre fils, et qu'il allait se charger de sa fortune à la cour avec la plus inquiète sollicitude. Voulant lui en donner une preuve irrécusable, il demanda pour lui un brevet de mousquetaire gris, et croyant lui ménager la plus douce des surprises, il ne lui dit pas un mot de ses démarches. Il en résulta qu'un soir, en se mettant à table, Dieudonné trouva, sous sa serviette, un brevet signé Louis, lequel l'admettait à l'honneur de faire partie de ce corps privilégié. C'était en effet un grand honneur. Les jeunes gens des premières familles de France demandaient à entrer dans ce qu'on appelait à cette époque la Maison Rouge. Car mousquetaire noir comme mousquetaire gris étaient habillés de rouge, cette désignation venant de la couleur de leurs chevaux et non de celle de leur casque. En outre, chaque mousquetaire avait le grade de lieutenant. Mais, si grand que fût cet honneur, nous devons avouer que, depuis la lettre qu'il avait arrachée aux douceurs de son ermitage, jamais monsieur de la Graverie n'avait éprouvé une secousse plus désagréable que celle qu'il ressentit à la vue de ce parchemin. Il en eut des éblouissements vertigineux, et une sueur froide inonda tout son corps. Avec une énergie que nul n'eût eu le droit d'attendre de cette nature débonnaire et facile, il repoussa cet honneur, sans défendre par force raison, dont la meilleure était, sans contredit, que, tout au contraire de D'Artagnan, son illustre devancier, il ne se sentait aucune espèce de goût pour la casaque. Le baron de la Graverie apprit ce refus par une lettre que le chevalier écrivit ab irato. Il entra dans une majestueuse fureur. Ce refus du chevalier le compromettait gravement. Il avait usé de tout son crédit pour obtenir du roi la précieuse signature. Or, un la Graverie se déclarait impuissant à remplir une charge militaire quelconque, c'était le livrer, lui, à la risée de la cour. Il répondit donc à son frère qu'il eut bon gré mal gré à endosser la casaque, et il répondit au roi que le chevalier était si reconnaissant de la faveur accordée que, ne sachant dans quel terme en faire ses remerciements, il le chargeait, lui, le baron, d'en exprimer à sa majesté toute sa reconnaissance. Il n'y avait plus à s'en dédire pour le malheureux Dieudonné. Le baron avait répondu et remercié en son nom. Dieudonné avait un profond respect pour la hiérarchie de la famille. Il faisait plus qu'aimer son frère, qui avait pris pour son compte tous les chagrins et toutes les fatigues de la vie, ne lui en laissant à lui que les douceurs. Et malgré l'abandon de la moitié de son héritage, qu'il ne regretta pas un seul instant, hâtons-nous de le dire, il se demandait quelquefois s'il n'était point coupable envers son aîné en détenant l'autre moitié. Les reproches d'ingratitude que le baron vint lui faire en personne, car lorsqu'il avait la rare occasion d'adresser des reproches à son frère, le baron se donnait la satisfaction de les lui faire de vive voix. Ces reproches d'ingratitude, disons-nous, touchèrent si vivement Dieudonné que, ne sachant que répondre, il resta absolument muet. Madame de la Gravrie fit des yeux à son beau-frère, un signe qui demandait grâce pour son pauvre mari, au nom duquel elle semblait s'engager. En effet, Mathilde, qui n'avait pas encore eu le temps de perdre au frottement de la société française ses illusions germaniques, Mathilde regardait Dieudonné comme l'Antinoüs du XIXe siècle, et ne doutait pas qu'un uniforme aussi élégant que l'était celui des mousquetaires ne fit ressortir les avantages qu'elle lui supposait. Elle s'était donc décidée, par coquetterie conjugale, à soutenir la thèse de son beau-frère. D'ailleurs, la thèse n'avait plus besoin d'être soutenue puisque le baron avait répondu et remercié au nom de Dieudonné. Dieudonné, qu'il voulût ou ne voulut pas, était donc bel et bien mousquetaire gris, des pieds à la tête, et relevait désormais du maréchal-duc de Raguse, commandant en chef de la maison du roi, mousquetaires et gardes du corps. En effet, 8 jours après, le malheureux chevalier endossait l'uniforme avec la résignation et la bonne grâce d'un caniche que l'on revêt de la toque et de la tunique d'un troubadour pour lui faire faire des exercices sur la corde raide. L'uniforme était magnifique, surtout en grande tenue. Habit rouge, culotte de casimir blanc, grandes bottes montant jusqu'au-dessus du genou, casque à flottante crinière, cuirasse à croix soleillée d'or. Mais le pauvre Dieudonné était bien empêché dans ce magnifique uniforme. Il n'avait pas de lui-même une plus haute idée qu'il n'en devait avoir, et se sentait gauche et ridicule sous le harnais. En effet, court et replet, il avait la figure rougeaude et imberbe d'un génovif. Gentil à croquer sous l'aube d'un enfant de cœur, il était profondément absurde sous l'uniforme. Et cependant, vêtu en bourgeois, le chevalier n'était pas remarquablement plus laid que la plupart des autres hommes ne se permettent de l'être. Et la phrase consacrée par l'usage pour pallier le manque de grâce qui caractérise certains individus de l'espèce masculine, il n'est ni bien ni mal, pouvait s'appliquer au chevalier aussi bien, et nous dirons même mieux qu'à tout autre. Mais l'uniforme, en donnant des prétentions à cette modeste tournure, en faisait saillir tous les défauts. Était-il à pied? Ses bottes avaient l'air de sortir de son abdomen comme le manche d'un bilboquet de sa boule. Alors, l'un, à cause de ses petits bras courts et grassouillets, le comparait à l'oiseau de mer que la privation de ses membres, si utile, a fait baptiser du nom de manchot. L'autre demandait au premier venu, en le voyant passer, « S'il vous plaît, monsieur, pouvez-vous me dire le nom de ce plumet qui se promène ?» Mais là encore était le beau côté de la situation. Pour avoir une idée des angoisses que peut éprouver un homme sans en mourir, il fallait voir le chevalier de la Gravrie à cheval. À 10 ans, lorsque le petit chevalier se trouvait au haut d'un escalier, il appelait sa tante, la chanoinesse de Beauterne, afin qu'elle vînt lui donner la main et l'aidât à descendre. À 15 ans, lorsque, par hasard, il avait monté l'âne du jardinier, une de ses nobles protectrices se tenait invariablement à la tête de l'animal et l'autre à la partie opposée, afin que, s'il venait à l'âne, la fantaisie de prendre le mort aux dents, l'une pût l'arrêter par la bride et l'autre le retenir par la queue. Or, quelque assiduité que le chevalier mit à suivre les écoles d'équitation, quelque patience qu'il déploya dans l'étude de la théorie, il fut impossible à ses membres ronds et roides à la fois de se plier au mouvement de son cheval. Choisi par son frère, quoique le chevalier l'eût demandé bien doux, le cheval de notre héros n'en était pas moins un cheval de course et de bataille sans défaut, mais plein de sang et d'ardeur. Le chevalier avait demandé que ce cheval fût le plus bas possible. Mais il y avait, pour les chevaux de la maison du roi, mousquetaire, garde du corps ou chevaux légers, une taille voulue, au-dessous de laquelle aucun cheval ne pouvait être admis. Or, le chevalier, qui avait des vertiges en regardant du haut en bas d'un perron immobile, avait bien d'autres vertiges lorsqu'il se trouvait sur la selle d'un cheval fringant et vigoureux. Juché sur Bayard, c'était le nom que le baron avait jugé à propos de donner au cheval de son frère, en souvenir du cheval des quatre fils aimants, à peu près avec la même solidité et la même grâce qu'un sac de farine est juché sur le dos d'un mulet, le chevalier ne s'y maintenait la plupart du temps que par un miracle d'équilibre et dans les circonstances difficiles grâce au bienveillant concours de ses camarades de droite et de gauche. Au commandement inattendu de Halt, n'eût été le poids respectable de son individu, 20 fois il eût rompu l'alignement en passant par-dessus la tête de sa monture. Heureusement pour le chevalier que sa douceur, son obligeance, son humilité touchèrent ses camarades, qui eurent honte de prendre pour plastron un être complètement inoffensif, bien que, grâce à l'aide qui lui était donnée, s'il eût possédé la plus petite dose de suffisance, rien ne l'eût empêché de se regarder comme le plus brillant cavalier de son escadron. Mais il n'en était point ainsi, et Dieudonné se trouvait si mal à son aise sous la belle croix brodée qu'il portait sur son uniforme, qu'il eût jeté la casaque aux orties, s'il n'eût craindre de causer un chagrin à sa femme et de se mettre en guerre avec son aîné. Une chose l'effrayait surtout, c'est qu'un jour ou l'autre, son tour viendrait de servir d'escorte au roi. Là, on n'était plus dans les rangs, on galopait à la portière et chacun pour son compte. Et les sorties du roi avaient lieu avec une régularité désespérante. C'était un homme très réglé dans ses habitudes que le roi Louis XVIII. Jamais il ne faisait un jour autre chose que ce qu'il avait fait la veille, ce qui eût fort simplifié le travail du dangeau moderne si, comme son illustre prédécesseur et aïeul Louis XIV, Louis XVIII avait eu un dangeau. Or, voici l'emploi que chaque journée du roi, depuis sa rentrée à Paris, le 3 mai 1814, jusqu'au 25 décembre 1824, époque de sa mort. Que l'on me pardonne si je me trompe d'un jour ou deux, je n'ai pas sous la main l'art de vérifier les dates. Il se levait à 7 heures du matin, recevait le premier gentilhomme de la chambre, ou M. de Blacas, à 8 heures. À 9 heures, il prenait ses rendez-vous d'affaires. À 10 heures, il déjeunait avec le service, et les personnes autorisées, une fois pour toutes, à déjeuner avec lui, c'est-à-dire les titulaires des grandes charges et les capitaines des compagnies de la maison du roi. Après le déjeuner, qui, dans les premiers temps, ne durait que 25 minutes, mais qui finit par durer 3 quarts d'heure, et auquel Madame la Duchesse d'Angoulême et une ou deux de ses dames assistaient toujours, on passait dans le cabinet du roi et une conversation s'entamait. À 11 heures moins 5 minutes, jamais plus tôt, jamais plus tard, la duchesse se retirait, et alors quelque histoire graveleuse tenue en réserve était racontée par le roi pour égayer ses auditeurs. À 11 heures 10 minutes au plus tard, il congédiait son monde. Aussitôt venaient, jusqu'à midi, les audiences accordées aux particuliers. À midi, le roi allait entendre la messe avec son cortège, composé souvent de plus de 20 personnes, jamais de moins. À son retour, il recevait ses ministres ou tenait son conseil, ce qui arrivait une fois par semaine. Après le conseil, il passait 1 heure ou 2 à écrire ou à lire ou à faire des plans de maison qu'il jetait ensuite au feu. À 3 ou 4 heures, selon la saison, il allait à la promenade et faisait 4, 5 et jusqu'à 10 lieues dans une grosse berline sur le pavé et les chevaux courant ventre à terre. À 6 heures moins 10 minutes, Il rentrait aux Tuileries. À six, il dînait en famille, mangeait beaucoup et avec discernement, ayant des prétentions légitimes au titre de gourmand. La famille royale restait réunie jusqu'à 8 heures. À 8 heures, tous ceux qui avaient le droit d'entrer chez le roi sans audience préalable pouvaient demander à être admis et étaient reçus à son tour. À 9 heures, Sa Majesté sortait et passait dans la salle du conseil, où elle donnait le mot d'ordre du château. Quelques personnes avaient le privilège d'entrer en ce moment et en profitaient pour faire leur cour au roi. L'ordre durait 20 minutes, après quoi le roi se retirait dans sa chambre et commentait Horace ou lisait Virgile ou Racine, et à 11 heures il se couchait. Plus tard, quand Madame du Cayla et Monsieur de Casse furent en faveur, Madame du Cayla arrivait le mercredi après le conseil, et restait 2 ou 3 heures avec le roi sans que personne pût entrer. Quant à Monsieur de Casse, son tour venait le soir, il passait dans la chambre du roi en même temps que Sa Majesté, il restait seul avec elle et n'en sortait qu'un quart d'heure avant le coucher du roi. Au milieu de cette longue suite de petits devoirs que le roi s'était imposés et qu'il accomplissait avec une ponctualité religieuse, une seule ligne avait préoccupé M. de la Graverie cadet. C'était celle-ci. Tous les jours, que le temps soit bon ou mauvais, Sa Majesté sortira et restera dehors de 3 heures à 6 heures moins un quart. C'était la maison du roi qui fournissait les escortes pour les promenades, la maison rouge comme les autres. Mais comme la maison du roi était considérable, le tour de chacun ne revenait que tous les mois. Le hasard voulut que le chevalier fût 25 jours à attendre son tour. Enfin, il arriva. Ce fut un jour cruel. Mathilde et le baron étaient enchantés. Ils espéraient, l'un que son frère, l'autre que son mari, seraient remarqués par le roi. Au moindre scintillement, la nébuleuse pouvait devenir une étoile. Hélas, la pauvre étoile future était cachée derrière un terrible nuage, celui de la peur. De même que le jour était venu, l'heure vint. L'escorte attendait à cheval dans la cour. Le roi descendit, et comme d'habitude, à peine fut-il monté dans la voiture que les chevaux partirent au galop. Quiconque eût jeté les yeux sur le chevalier de la Graverie l'eût vu si pâle qu'il en eût eu pitié. Il était dans la complète impossibilité de diriger son cheval. Par bonheur, le cheval était aussi bien dressé que le maître l'était mal. Le cheval dirigea le maître. L'intelligent animal semblait tout comprendre. Il se mit de lui-même à son rang et ne le quitta plus. Il n'y avait pas à dire que l'on recourait au pommeau de la selle. Une main tenait la bride, l'autre le sabre. Le chevalier se voyait tombant et s'embrochant sur sa propre lame, ce qui lui causait des angoisses telles que son corps s'éloignait lui-même de son sabre et sa main de son corps. Ce jour-là, la course fut énorme. On fit le tour de la moitié de Paris. Le roi sortit par la barrière de l'étoile et rentra par la barrière du trône. Un bon cavalier eût été brisé. Le chevalier de la Graverie était rompu comme si on l'eût descendu de la roue. Quoique l'on fût au mois de janvier, la sueur lui découlait du front et sa chemise était mouillée comme si on l'eût trempée dans la Seine. Il laissa son cheval à son domestique et au lieu de dîner au château avec ses camarades, comme c'était l'habitude, il sauta dans un fiacre et en quelques secondes revint rue de l'Université, numéro 10. Si courte que fût la course, il ne s'était pas senti le courage de la faire à pied. En l'apercevant, Mathilde jeta un cri. Il semblait vieilli de 10 ans. Le chevalier fit bassiner son lit avec du sucre, se coucha, de 3 jours ne se leva point, et pendant 15 jours, se plaignit de douleur par tout le corps. Hélas, Il y avait loin de là à l'existence tranquille de la petite ville bavaroise, assez longs tête-à-tête entremêlés de caresses, assez douces promenades pendant le crépuscule sur la lisière des bois et sur le bord de la rivière, promenades pendant lesquelles les silences des deux époux étaient aussi éloquemment amoureux que les caresses les plus tendres, tant la fusion de leurs âmes était complète. Plus d'isolement égoïste au milieu des indifférents, plus de ces charmants tête-à-tête au coin du feu, passés à se construire une petite vieillesse à la Philémon et Baucis. Ce qui arriva depuis dans tout ceci, et l'aventure du limbago, fit faire un grand pas à cette conviction, c'est que Madame de la Gravrie se vit forcée de reconnaître par la comparaison que son chevalier n'était pas précisément aussi supérieur aux autres hommes qu'elle l'avait supposé jusqu'alors. C'est un moment fatal pour les amours et un terrible écueil pour la fidélité conjugale que le moment où la femme en arrive à soupçonner que le Créateur pourrait bien ne pas s'être positivement reposé après avoir confectionné tout exprès pour elle l'objet dont jusque-là elle avait fait son idole. Un mari passé à l'état de monnaie légale n'a plus qu'un cours forcé. Ce n'est pas que nous voulions dire que du jour où elle fit cette fatale découverte, Mathilde cessa d'aimer son mari. Bien au contraire, les soins qu'elle lui rendit en particulier pendant l'indisposition qui suivit cette malheureuse journée de l'escorte, ne furent rien en comparaison de ceux qu'elle lui témoigna en public. Quelques prudes qualifièrent même d'indécente la tendresse que la jeune Allemande ne craignait point d'afficher pour M. de la Gravrie. Mais nous devons, pour être en tout point fidèles à la vérité, avouer que, quand ils étaient seuls, Mathilde n'ouvrait plus guère la bouche que pour bâiller, et que ses devoirs et ses obligations de femme du monde commencèrent à se multiplier singulièrement chaque jour. Il va sans dire que le chevalier de la Gravrie ne s'aperçut de rien qui pût lui faire soupçonner qu'il n'était pas toujours le plus fortuné des hommes. Il voyait se continuer pour lui, dans le mariage, les gâteries auxquelles son enfance avait été habituée, et en était arrivé, peu à peu, à regarder comme très simple et très naturel les soins extraordinaires que lui prodiguait Mathilde, et à trouver que c'était bien le moins et le mieux qu'elle pût faire. Monsieur de la Gravrie eût été bien certainement le plus heureux des époux si, en même temps qu'époux, il n'eût cette malheureuse chance d'être mousquetaire gris. C'était surtout ce terrible tour d'escorte qui revenait tous les mois et qui, suspendu comme une épée de Damoclès au-dessus de sa tête, empoisonnait ses plus doux instants.